Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à tous, bon réveil à toutes et à tous, bienvenue dans Apolline Matin, jeudi 14 mai. Dans deux semaines, ça c'est un des sujets de débat du jour, dans deux semaines les salariés au SMIC seront augmentés de 34 euros net, c'est automatique, c'est lié à l'inflation. Bonne nouvelle pour les plus précaires, mais moins bonne pour les patrons qui pourraient en plus voir les allègements de charges baisser. Le porte-parole du MEDEF à 7h40 tout à l'heure, mais déjà vos témoignages, est-ce qu'il faut augmenter les salaires, est-ce qu'on peut augmenter les salaires. Que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, on a le nez sur la compta ce matin, vous nous appelez au 3216, vous écrivez sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Dans un instant, le journal de 7h avec cette affaire de babysitter soupçonné d'avoir commis viol et agression sexuelle sur 18 enfants qu'il gardait alors qu'il avait déjà été condamné il y a 6 ans. Comment protéger nos enfants du fléau pédocriminel? Qui, pour les protéger à l'aide d'une intelligence artificielle, un internaute a piégé un retraité? Un ancien prof de PS qui croyait parler à une ado de 14 ans. Est-ce qu'on va en venir à se faire justice nous-mêmes? Est-ce que n'importe qui peut traquer les pédophiles en ligne? Non, non, nous dira maître Jean Sagné. Il y a une déontologie à respecter. C'est l'avocat de l'association Innocence en danger qui piège justement des pédocriminels. Il sera en direct avec nous juste après le journal de 7h.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Presque une formalité à deux semaines de la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1 pour la 14e fois. Victoire 2-0 hier soir à Lens. Comment a-t-il pu récidiver aussi facilement? Un babysitter déjà condamné à Nice, à nouveau mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une vingtaine d'enfants. La mère d'une de ses premières victimes témoigne ce matin sur RMC. Et puis des nouvelles rassurantes côté antivirus. Aucun des 26 cas contacts français n'a de symptômes, indique le gouvernement.
Il n'y avait presque aucun suspense, mais c'est donc officiel désormais. Le Paris Saint-Germain est champion de France, champion de Ligue 1.
Pour la 14e fois de son histoire, grâce à sa victoire 2-0 contre son dauphin, le RC Lens, au Stade Bollard. Presque une formalité, Lucas Laubert.
Oui, un nouveau trophée pour le PSG, fêté en toute sobriété, l'attaquant Désiré Doué.
On est champion.
Au Stade Bollard, hier soir, le club parisien est venu à bout de Lens, son principal rival tout au long de la saison. L'entraîneur parisien Luis Enrique est soulagé.
On a eu beaucoup de joueurs blessés, avec peu de vacances cet dernier été. Ça a été difficile à gérer et on a eu des difficultés.
Paris peut remercier son gardien, Matvei Safanov, auteur d'une prestation XXL, 8 parades décisives. Le gardien est fier de sa prestation à 2 semaines de la finale de Ligue des Champions.
Et c'est pas tous les matchs comme ça. J'ai eu les résultats de mon travail, mais notre chemin n'est pas fini. On a une idée à notre tête, toute l'équipe. On va continuer le travail avec grande concentration.
On ne sait toujours pas où le PSG pourra soulever son trophée. Le Paris FC, dernier adversaire de la saison, s'est déjà dit contre une cérémonie de remise à jambon dimanche soir.
Luc Allobert avec Arthur Perrault pour RMC et c'est officiel. Le Mans jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine. La Ligue de football professionnel entérine définitivement sa victoire 2-0 à Bastia samedi dernier. Le match avait été interrompu par des jets de fumigène.
La sidération de nombreuses familles ce matin après la mise en examen d'un pédocriminel déjà condamné par la justice.
Un babysitter condamné il y a 6 ans à Nice pour agression sexuelle sur mineurs, condamné à 5 ans de prison avec interdiction d'exercer un métier en contact avec les mineurs. On vous en avait beaucoup parlé sur RMC. Et bien ce même homme, 37 ans, vient d'être mis en examen pour des mêmes faits à Lille dans le Nord, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur 18 enfants qu'il gardait. Inconcevable pour la mère de la première victime à Nice. Témoignage RMC recueilli par Inès Zegloul.
Cela fait à peine quelques minutes qu'elle a appris la nouvelle. Le souffle court au téléphone.
Je vous laisse imaginer la stupeur.
Sophia parle de colère, de haine, de douleur.
Ça réouvre un gros bobo qui finalement n'a jamais été fermé, quoi. Mon Dieu, mais mon Dieu, tous ces enfants. Oh.
Ils sont 18, âgés de 2 mois à 5 ans à l'époque des faits. 18 victimes potentielles du même homme, l'agresseur de son fils, pourtant déjà condamné il y a 6 ans. 18 victimes potentielles du même mode opératoire.
Mon fils a réussi à mettre cet homme sous les barreaux. La justice le libère au bout de 3 ans, il prend le train puis il va s'installer au nord de la France et puis il reposte des petites annonces de babysitting. Qu'il puisse recommencer la même chose, c'est pas normal.
La maman, voix tremblotante, déplore un suivi judiciaire qu'elle qualifie d'inexistant.
Il n'a pas dû pointer chaque mois, expliquer où il en était, quel travail. Ce garçon aurait dû être surveillé de près. Un monstre. Vous vous rendez compte ?
Question laissée en suspens. Les parents qui embauchent des babysitters, conclut-elle, devraient au moins pouvoir consulter leur casier judiciaire.
Le SMIC augmentera d'environ 34 euros net au 1er juin, plus 2,4% hausse mécanique à cause de l'inflation qui, elle, a grimpé de 2,2% en un an. Une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, selon le ministre du Travail. Moins bonne pour les employeurs, car cela fait augmenter le coût de l'allègement des charges patronales. Mais Victor Joannin, le gouvernement réfléchit à une solution.
Oui, cette revalorisation du SMIC a fait gonfler la note pour les comptes publics de 1,5 à 2 milliards d'euros, puisque les allègements de charges coûtent plus cher à mesure que le SMIC augmente et qu'elles englobent aussi plus de salariés. Pour quelqu'un payé 2 000 euros, la hausse du SMIC au 1er juin, c'est 25 euros d'allègements supplémentaires, et pour quelqu'un payé 3 fois le SMIC, c'est même 120 euros. Un manque à gagner alors que le gouvernement cherche 6 milliards d'euros d'économies pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran. Selon nos informations, deux options sont sur la table et elles risquent de décevoir les entreprises qui pouvait s'attendre à des allègements supplémentaires, soit un gel total de ces allègements, soit un gel concentré sur les plus hauts salaires, une deuxième option qui ferait économiser 1 milliard d'euros. Ce serait une erreur, s'alarme le patronat qui est vent debout.
Vous êtes chef d'entreprise, on vous attend au 32-16. Cette hausse de 34 euros net, la bienvenue, j'imagine, pour les bas salaires, vous nous le dites aussi dans le contexte en plus avec les prix qui augmentent, les prix des carburants. C'est le débat ce matin, on vous attend au 32-16.
Donald Trump en opération séduction en Chine, reçu en grande pompe par Xi Jinping, à qui il promet, je cite, un avenir fabuleux entre leurs deux pays. À la clé, après cette rencontre, des contrats commerciaux et une médiation espérée dans le dossier iranien.
C'est donc la souche des Andes qui a été détectée dans les 8 cas d'antivirus en lien avec la croisière MV Ondius.
C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé. Et en parallèle, on a des nouvelles des Français cas contact de la Néerlandaise qui était présente à bord, décédée ensuite. Les 26 cas contact n'ont pas de symptômes, indique le gouvernement. Les nouvelles sont donc plutôt rassurantes, Thomas Becker.
Oui, hormis la croisiériste dont l'état s'est vite dégradé, aucun des 26 cas contact ne présente de symptômes. Les 4 enfants scolarisés qui sont actuellement hospitalisés sont tous négatifs. Les enfants n'ont donc pas pu transmettre le virus puisque selon le ministère de la Santé, un test négatif exclut toute contagiosité. Autre information pratique, le protocole appliqué pour déterminer qui est cas contact est le même que pour la méningite. 3 règles, avoir eu un contact rapproché dans les 10 jours précédant le test, contact de moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes. Dans ce cas, la personne devrait être isolée en milieu hospitalier. La doctrine la plus stricte, rappelle la ministre de la Santé, qui tente de convaincre ses homologues de l'appliquer dans tous les pays européens.
7 ans de prison, 2 nouveaux requis contre Nicolas Sarkozy et 300 000 euros d'amende au procès en appel du financement libyen de sa campagne. C'est 2 ans de plus que sa condamnation en première instance. Les réquisitions, elles, sont les mêmes, Julie Brault, mais formulées hier avec beaucoup plus de sévérité.
Oui, les avocats généraux n'ont pas mâché leurs mots. Selon eux, Nicolas Sarkozy est l'instigateur, celui qui a tiré les ficelles et l'unique bénéficiaire d'une association de malfaiteurs pour lui permettre d'être élu. Il ne s'agit pas de n'importe quel scénario ou impact de corruption scellé au plus haut niveau avec le dictateur Muammar Kadhafi, dénonce-t-il. Des réquisitions sans appel au cours desquelles Nicolas Sarkozy est, comme à son habitude, resté stoïque, sans jeter un seul regard à l'accusation. Lui qui entend plaider sa parfaite innocence par la voix de l'un de ses avocats, Maître Christophe Ingrin.
Il n'y a pas d'argent dans sa campagne, il n'y a pas d'argent dans son patrimoine, pas d'argent libyen, et pour cause, il n'y a pas eu de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par la Libye, il n'y a pas eu d'enrichissement de Nicolas Sarkozy. Son élection n'a pas été biaisée. Et je le redis, Nicolas Sarkozy est innocent et nous le démontrerons dans 15 jours.
Le 27 mai prochain, ils seront 4 à plaider la relaxe de l'ex-chef d'État. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy pourra, s'il le souhaite, s'adresser une dernière fois à la Cour et qui doit rendre sa décision le 30 novembre.
Julie Brault du service police-justice d'RMC. Et puis c'est ce soir qu'on connaîtra la liste des Bleus. Ah. Didier Deschamps la dévoile à 20h à un peu moins d'un mois du Mondial. Le Mondial dont on connaît, ça y est, les têtes d'affiche pour le spectacle de la mi-temps de la finale. Il y aura Madonna déjà pour commencer.
Qui revient en force.
Et on aura aussi Shakira qui signe, vous le savez Mathieu, l'hymne de cette Coupe du Monde. Je vous la présente plus, Die Die Die, qu'on avait découvert un extrait, maintenant c'est disponible en entier sur les plateformes. Il y aura donc Madonna, Shakira et aussi BTS, hein, les stars de la K-pop. Tout ce beau monde dirigé par un directeur artistique, Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Ouais, pour la finale le 19 juillet, ça promet.
Ça promet, on n'a pas l'affiche de la finale, mais on a déjà l'affiche du show de la mi-temps. Cette finale de Coupe du Monde façon Super Bowl. Désormais, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. RMC, radio officielle, bien sûr.
Absolument.
De la Coupe du Monde qui démarre bientôt, là. Ça y est, on est moins d'un mois. Hein. On est le 14, c'est le 11 juin. Merci beaucoup, Clara. C'était le journal de 7h sur RMC. Et RMC Story, bien entendu, vous réagissez ce matin au 32-16 sur deux grandes questions. D'abord, le SMIC. Faut-il augmenter le SMIC? Il augmente automatiquement de 34 euros net à partir du 1er juin prochain. Mais dans quelles conditions pour les chefs d'entreprise, avec les allègements de charges ou non, le gouvernement y réfléchit. Vous allez voir, c'est assez technique, mais il y a de l'enjeu pour les petits patrons notamment. Et je vous attends au 32-16. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et l'autre grand sujet à la une ce matin, ce retraité de 66 ans, pédocriminel piégé par un TikToker. Finis-y, jeune homme qui, grâce à une intelligence artificielle, s'est fait passer pour une adolescente de 14 ans. Le retraité, ancien responsable de sport scolaire, est en garde à vue. Mais une question se pose sur la méthode. A-t-on le droit de faire la chasse aux pédocriminels soi-même? On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a une certaine déontologie à respecter. C'est le parti pris de Maître Jean Sagnier, avocat d'Innocence en Danger. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, il est 7h13. Un retraité de 66 ans, ancien directeur du sport scolaire en Haute-Saône, déjà condamné en janvier 2025 pour détention d'images pédopornographiques. Il a été placé en garde à vue mardi après la diffusion d'une vidéo virale sur TikTok. Un internaute, Finis-y, l'avait piégé en se faisant passer pour une adolescente de 14 ans. La voix et l'image générées par intelligence artificielle.
Et si on se voit et que je t'emmène au parc, donc là tu vas me connaître. Donc là, est-ce que je pourrais t'embrasser par exemple?
C'est à vous, je ne peux pas prédire le futur. Ouais, je le dis tout à l'heure, imagine que tu as 14 ans.
Bonjour Maître Jean Sagnier.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocat de l'association Innocence en Danger qui défend notamment des enfants victimes de violences sexuelles. Votre parti pris ce matin, on ne peut pas faire n'importe quoi en chassant les pédocriminels sur Internet. Je tiens à préciser que vous défendez des associations qui piègent ce genre d'individus. On va parler du fond et de la forme ce matin. Dans ce cas précis, qu'est-ce qui pose problème selon vous?
Bon, ce qui pose problème, c'est qu'il s'agit d'une infraction. Le fait de diffuser des informations personnelles dans le but de nuire, c'est ça la question, dans le but de nuire à une personne n'est pas acceptable en soi et réprimé par les dispositions de l'article 223.1.1 du Code pénal. Que l'on chasse des pédocriminels sur Internet, c'est une bonne chose puisque l'État ne le fait pas ou pas suffisamment. Il y a une grande carence de l'État à protéger les enfants sur la toile. Mais ça ne peut pas se faire comme cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas livrer à la vindicte populaire un individu en donnant son image, sa photo. On ne sait pas dans quel espace on arrive. Cet homme a des enfants, cet homme a une famille, cet homme a une mère qui peut-être l'apprécie et qui dit à ses amis de l'EHPAD que c'est un enfant adorable, un garçon charmant.
J'entends, maître, mais si jamais c'était dans les règles de l'art et que c'est la police qui intervenait, qui l'arrêtait, etc., le dommage sur l'entourage, les proches, la mère dans un EHPAD, c'est le même?
Non, c'est pas le même, parce que d'une part, le fait de diffuser ce type de document en direct, en live, d'une part, ça va permettre aux pédocriminels d'effacer les preuves. Je pense que dans cette vidéo, on voit immédiatement l'individu qui ne répond plus au streamer. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, puisqu'il est appelé quelques minutes après par téléphone? Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'apercevoir qu'il a été piégé. Il va faire disparaître le téléphone portable. Il va faire disparaître les ordinateurs. Tout ça va à la poubelle.
Ça, c'est essentiel, maître. En procédant en dehors des règles de l'art, si j'ose dire, et des règles d'une enquête classique, on permet aussi à ces pédocriminels ou présumés pédocriminels d'effacer toute forme de preuve, de détruire leur disque dur, etc.
C'est ça, et puis il y a peut-être aussi une enquête qui aurait pu être mise en place si, au lieu de le faire en direct, ça avait été fait en différé, remis aux services de police, comme le font des associations telles que la Team Mort, qui ont un process très précis.
Et mais justement, pardonnez-moi, vous défendez des associations qui font ça, et on découvre qu'il y a aussi quand même tout un système qui est en place. Quelles sont les règles pour la traque de pédocriminels en ligne?
Alors les règles, elles sont pratiquement les mêmes que ce streamer, c'est-à-dire qu'on voit bien dans ce qu'il fait qu'à aucun moment il ne va provoquer le pédocriminel. Il évite d'ailleurs à chaque fois d'aller sur le terrain sur lequel on veut l'emmener. Donc son attitude est, à mon sens, sans aucune critique, il n'y a pas de grief à lui faire. Il est parfaitement dans son rôle d'enfant qui refuse d'accompagner cet agresseur sur le terrain où il veut l'emmener. Ça, c'est la doctrine de notamment de la Timor, ne jamais provoquer, toujours être passif et toujours éviter.
Le problème de cet homme, c'est qu'on parle ce matin d'un pédocriminel qui pense échanger, je le disais, avec une ado de 14 ans, mais cet ancien prof de PS, il était déjà poursuivi pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Il a été relaxé pour ses faits en 2025, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Je voudrais vous faire écouter, maître, cet extrait du témoignage RMC recueilli par Constance Bostoen, une ancienne élève de ce monsieur.
Il était venu me voir, il m'avait pris à partie, il m'avait dit « Voilà, maintenant, faut que tu me fasses un bisou pour me dire bonjour, mais attention, faut que personne ne nous voit. » Après, je me souviens qu'il me prenait énormément en photo.
Alors moi, je veux bien qu'il y ait une manière de faire, qu'il y ait aussi des principes, et la justice n'est pas n'importe quoi. Mais la justice, faut croire que ça marche pas bien, maître. Vous savez, la plupart des gens qui nous écoutent ce matin, ils vont saluer le travail de Finizi.
Raison de dire que la justice n'est pas à la hauteur. Mais il n'y a pas que la justice qui n'est pas à la hauteur. L'ensemble de nos gouvernants ne sont pas à la hauteur. Les enfants, depuis des années, les enfants crient, les enfants dénoncent le système et ils ne sont pas entendus. C'est-à-dire que la réponse judiciaire, elle est totalement défaillante. Et c'est parce que la réponse judiciaire est défaillante que l'on se dit, puisque l'État ne fait pas son travail, ce qui est une certitude, puisque l'État ne mesure ni l'urgence, ni l'ampleur du fléau, alors que les victimes parlent.
La défaillance, c'est celle de l'État, maître Jansagne. Ce que vous soulignez ce matin, vous l'avez dit en début d'interview, et vous le redites à présent, parce que cet homme était en liberté. Si vous allez sur le compte de Finizi, il y en a des tas d'autres visibles sur TikTok, des tentatives du même ordre qui ne sont pas allées au bout. C'est parce qu'on parle aussi ce matin de ce babysitter qui est mis en examen pour viol, agression sexuelle sur 18 enfants qu'il gardait 6 ans après avoir été déjà condamné.
Oui.
C'est parce qu'on a parlé du site Coco qui a servi à Dominique Pellico à faire violer sa femme et qui est encore en ligne à nouveau. Qui protège les enfants, maître ?
Alors, dans ce que vous dites, il y a des certitudes que l'on connaît aujourd'hui. Actuellement, à l'instant où l'on parle, il y a 2 600 000 pédocriminels en ligne. C'est-à-dire que dans le monde, en permanence, il y a pratiquement 3 millions de pédocriminels en chasse. Donc c'est véritablement un fléau qui est très important. Quand vous dites et quand vous rapportez qu'effectivement l'État ne fait pas son travail, il n'y a pas que l'État qui ne fait pas son travail. Cet individu a été condamné en janvier 2026 et vous voyez la peine, elle est inexistante. 18 mois sursis. 18 mois sursis. C'est-à-dire que même s'il a une obligation de soins, on le retrouve effectivement sur le net. C'est-à-dire que ni la réponse de l'État, ni la réponse de la justice ne sont présentes. Et c'est parce que ni l'un ni l'autre ne sont présents qu'effectivement la très grande majorité de vos auditeurs vont dire effectivement, puisque l'État ne fait pas son travail, c'est très bien qu'il y ait des individus qui le fassent seuls. Moi, ce que je constate, c'est
Merci
que...
Merci maître, pardonnez-moi.
Moi, je vous en prie.
Excusez-moi, je vous laisse terminer votre phrase, excusez-moi.
Ce que je constate, c'est que vous avez des carences qui sont palliées, telles que le site Coabuse. Le site Coabuse vient de détecter des victimes d'un professeur de piano. Ce site fait quoi ? Eh bien, lorsque vous êtes victime et que vous êtes seul, vous n'êtes pas crédible. Il permet de façon anonyme à des victimes de déposer leur témoignage. Et s'il y a plusieurs victimes qui dénoncent le même agresseur, elles vont pouvoir être mises en relation. Et c'est ce match qui va permettre la dénonciation. Donc la carence de l'État est compensée par des sites comme Coabuse, comme la Timor. Et l'association Innocence en Danger va poursuivre malheureusement ce combat qu'elle mène depuis plusieurs dizaines d'années parce que l'État est trop défaillant dans ce combat.
Merci maître Jean Sagnier, avocat de l'association Innocence en Danger. C'était important aussi d'expliquer le cadre juridique de ce débat que nous avons ce matin. Ça vous fait réagir, c'est certain. Vous intervenez au 32-16 ce matin, il est 7h21. Et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
Si vous l'avez reconnu, évidemment, Charles de Gaulle. La maison de Charles de Gaulle est à vendre, Arthur.
Oui, la maison de Charles de Gaulle, c'est la Boisserie en Haute-Marne. Le général y avait ses petites habitudes. Par exemple, il faisait 3 promenades par jour
et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Et on va faire une cagnotte ensemble, Arthur, pour que vous puissiez faire un apport.
J'ai déjà mis.
Et puis à 8h30, dans le face-à-face, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est Arnaud Demange qui pirate le face-à-face juste avant 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est avec vous, Arthur Chevalier. L'avenir de la boisserie, est d'être la demeure de tous les Français. C'est ce qu'affirme cette semaine un des quatre petits-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, dans une tribune pour le magazine Le Point. Arthur, la boisserie, c'était la maison du général.
Oui, et les héritiers de Gaulle ont décidé de la vendre. Donc évidemment, la crainte de tout le monde, c'est qu'elle soit rachetée par un particulier, qu'elle soit en quelque sorte privatisée, cette maison. C'est pour ça qu'Yves de Gaulle prend la parole en affirmant notamment qu'il refusera de céder ses parts de la demeure à une personne privée. Alors lui, ce qu'il veut, c'est que la maison soit acquise par le département où elle se trouve. Ce département, c'est la Haute-Marne.
Et alors cette maison, c'était le lieu de résidence privée du général de Gaulle.
Absolument, Mathieu. Il y a passé beaucoup de temps, la plupart du temps de sa vie, en fait. Même quand il était président, il y passait ses week-ends. La boisserie, c'est une maison cossue, mais assez simple. C'est finalement assez modeste. Dans un village de la Haute-Marne, un village qui s'appelle Colombé, les deux églises, et le couple de Gaulle achète cette maison en 1934. De Gaulle a à peu près une quarantaine d'années. Pourquoi est-ce qu'ils achètent cette maison? Eh bien, parce que une de leurs enfants, leur fille Anne, était handicapée, elle était trisomique. Donc, ils voulaient un endroit où elle pourrait s'épanouir avec plus de verdure et plus d'espace que dans leur appartement parisien.
Alors, le général de Gaulle, il y avait ses petites habitudes.
Alors, le général de Gaulle, Mathieu, n'avait que des habitudes. Ça, faut le savoir. À la boisserie, tout était réglé comme du papier à musique. Le général se levait tous les matins à 8h. Il prenait son petit déjeuner dans sa chambre. C'était café au lait et tartines. Ensuite, de Gaulle s'habillait, toujours en costume. D'ailleurs, son fils Philippe dira plus tard qu'il n'a jamais vu son père en robe de chambre ni sans cravate. Rendez-vous compte. Wow. À 13h, on déjeune, 40 minutes, jamais plus, puisque de Gaulle détestait s'éterniser à table. Il faisait 3 promenades par jour, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le soir, il se couchait en dernier, vers minuit. Alors pourquoi en dernier? Eh bien parce qu'il voulait lui-même éteindre les lumières.
Est-ce qu'il s'est passé des événements dans cette maison de campagne, somme toute, on peut le dire comme ça?
Exactement. Ben justement, en fait, assez peu, puisque le principe de la boisserie, c'était que c'était sa vie privée. Donc très peu de gens avaient l'honneur d'y être reçus. Le seul grand événement politique qui s'y est produit, c'était en 1958. De Gaulle reçoit le chancelier allemand Adenauer. Et d'ailleurs, Colombé les deux églises, donc le village où est la maison de Gaulle, était tellement méconnu que le chancelier allemand s'est trompé de village, il a été dans un autre Colombé qui était en Meurthe-et-Moselle.
Ah mince.
Donc il est arrivé avec une heure de retard. Finalement, il a dîné chez le général et il a même dormi là-bas une nuit, un privilège énorme.
Alors de Gaulle y est aussi mort.
Absolument, et pas n'importe comment, puisque de Gaulle est mort donc le 9 novembre 1970. Il est à peu près 19h et il jouait aux cartes. Et là, d'un coup, il est tombé. Rupture d'anévrisme qui lui a été fatale. Depuis sa disparition, un seul chef d'État français a dormi à la boisserie, à l'invitation de la famille de Gaulle. C'était Jacques Chirac en 1995.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, et je sais qu'Arthur va manger du pop-corn cette année.
Exact.
Puisque de Gaulle, on va pouvoir en profiter au cinéma, la bataille de Gaulle.
Excellent film.
Vous l'avez déjà vu?
Oui, je l'ai vu, c'est un excellent film.
Ça sort en deux volets, mais à partir du 3 juin prochain, 3 juin et 3 juillet, la bataille de Gaulle, ce sera au cinéma. Et votre chronique, Arthur, c'est ce matin, quand on veut, en podcast, sur l'application RMC.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Bonjour Arnaud Demange.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face est Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po. Il a publié « La guerre mondiale n'aura pas lieu ».
Oui, c'est un spécialiste français du Moyen-Orient qui nous parlera de l'Iran. Est-ce que l'inverse existe? Est-ce qu'en Iran, ils ont un spécialiste moyen-oriental des Français avec une Apolline de Malherbe locale qui le reçoit dans Face à Téhéran? Bonjour professeur, vous êtes spécialiste de la France. Alors, la France a-t-elle les moyens d'intervenir dans ce conflit chez nous?
Non, pas du tout.
Merci, l'interview est finie. Alors, je rappelle votre livre, La France au Moyen-Orient en 2025, Histoire d'une influence. Un livre de 2 pages absolument passionnant. Et en plus, c'est écrit gros. Voilà, ça fait des face-à-face très courts. Allez, le détroit d'Ormuz.
Oui.
On va dire ça. Parce qu'en plus, alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, Mathieu. Ça vous concerne. Attention, j'ai un raisonnement qui est un peu technique qui arrive. Dites à vos cerveaux de partir à l'échauffement. Ce serait con de risquer un claquage dès le matin.
Attention.
J'ai lu que le Premier ministre du Qatar accuse les Iraniens d'utiliser le détroit pour faire chanter les pays du Golfe. Mmh. Mais donc, si le Qatar ne peut plus exporter son gaz et son pétrole, ils vont faire faillite. Ils vont devoir vendre les joueurs du PSG juste avant la finale de la Ligue des Champions. Il va falloir racheter en urgence tout l'effectif du FC Metz. Ce qui ne doit pas être bien cher, hein. Je pense qu'on peut se cotiser. Oh. Vous avez combien sur vous? Non, pas si ça arrive.
Très cher, mais une ça défense. Fait pas finale une défense. Des Champions.
Si ça arrive, ça va énerver les supporters. Si j'étais Yann Arthus-Bertrand, j'irais démonter mon exposition moi-même, là, tout de suite. Plutôt que de risquer de la retrouver à nouveau éparpillée par petits bouts façon puzzle sur la place de la Concorde. Parce que samedi, vous vous souvenez, elle a été démolie par Charles Magnien, Mathieu Béliard et Lorenzo. C'est pas vous. C'est pas vous, alors.
C'est Charles.
C'est Charles. C'est que Charles. C'est Charles. Ceci dit, le gros dossier iranien, c'est la rumeur. Vous avez vu, on a tous en mémoire la claque que Emmanuel Macron a pris de la part de Brigitte dans l'avion présidentiel. Oui. Vous savez, le France avion. Eh bien, la rumeur, c'est que c'est à cause de SMS envoyés à l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, une relation décrite comme platonique. Oui. Alors, le coup de la relation platonique, c'est audacieux. Visiblement, ça marche pas. Vous prenez une claque, ne le tentez pas chez vous. Dans 2 mois, on a les photos de Macron en scooter qui va livrer des croissants. Mais en tout cas, voilà. Non, mais c'est cool. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Mélenchon qui drague les Iraniens en robe. Et ça, c'est assez chouette. Allez, rendez-vous avec Frédéric Ancel à 8h30.
Arnaud Demange, on vous retrouve à 8h15, surtout.
Exactement, avec une énorme chronique.
Quand on veut, on peut écouter Arnaud en podcast sur l'application RMC. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30 et juste après le SMIC qui augmente de 2,4%, 34 euros net à partir du 1er juin prochain. Bonne nouvelle, pas pour les patrons. Le gouvernement envisage en plus de geler les allègements de charges pour faire des économies. Le MEDEF est vent debout. Charles Nati, son porte-parole, notre invité à 7h40. Il est 7h28.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Rachel Sadedine. Bonjour Rachel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un serpent mortel sème la panique au nord de Toulouse. Toute une commune se retrouve barricadée dans la peur du cobra. Plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Et on ne parle pas d'un chauffard, mais d'un enfant, un bébé de seulement 21 mois. Ses parents ignorent comment leur fils s'est retrouvé dans cet état. Et puis le Paris Saint-Germain, un nouveau titre de champion de France à célébrer, le 14e au total. Mais on ne sait pas encore où la fête aura lieu.
Cette information, vous habitez Castelginest, au nord de Toulouse. Appelez-nous ce matin au 3216, il y a un cobra hautement venimeux qui est toujours en fuite ce matin.
Et il terrorise la commune donc de Castelginest, vous le disiez Mathieu, au nord de Toulouse. Ce serpent dont la morsure est mortelle, on le rappelle, il a été aperçu avant-hier par des habitants. Et depuis donc le collège, un parc, un cimetière, les terrains de sport ont été fermés. Philippine Boulet, les 11 000 habitants vivent dans la psychose.
Dans ce quartier de Castelginest où le serpent a été aperçu, les rues sont presque vides. Les habitants, comme Yann, restent enfermés chez eux pour éviter de croiser le cobra.
Comme d'habitude, c'est plein là sur la place, on s'amuse tous. Là, c'est pas le moment de sortir. On a mis les enfants au chaud, les animaux, et puis on fait attention quand on sort.
Grégory habite aussi le quartier. Autour de chez lui, des pièges ont été posés.
Des plats quoi, pour créer un peu de chaleur, essayer de l'attirer pour pouvoir le capturer.
Mais ça ne suffit pas à rassurer ce père de famille.
Ah, l'inquiétude, forcément, avec les enfants, même pour nous-mêmes, de toute façon, on a hâte qu'ils le trouvent et qu'on ne l'ait plus à côté de chez nous.
Pour capturer l'animal, plusieurs équipes de pompiers spécialisées sont mobilisées à la demande du maire de la commune, Grégoire Carnero.
Bien entendu, on ne peut pas prendre de risque. On l'a mis en sécurité, ce qu'on devait mettre en sécurité.
Par mesure de précaution, l'élu a fermé les parcs, les terrains de sport, mais aussi le collège et les centres de loisirs de la commune.
On a massivement informé par le biais des panneaux lumineux, des SMS, des réseaux sociaux également.
Et ce n'est pas la première fois qu'un animal exotique sème l'inquiétude à Castelginest. En 2019, déjà un caïman avait été découvert dans l'Erse, la rivière qui traverse la commune.
Des nouvelles rassurantes de l'antivirus. Aucun des 26 cas contacts français ne présente de symptômes. Et parmi eux, même 4 enfants ont été testés négatifs. Les résultats des adultes devraient être connus, eux, dans la journée. Une autre épidémie, encore sur un bateau de croisière à Bordeaux. Un navire est amarré depuis hier à cause de plusieurs cas de gastro-entérite. D'abord coincé à bord, la plupart des passagers, ça y est, ils ont pu débarquer hier soir, mais les 80 malades restent isolés à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. RMC, il est 7h33. Un bébé de 21 mois récupéré par ses parents avec 2,14 grammes d'alcool dans le sang. Oui, vous avez bien entendu, c'est en sortant de la crèche à Plailly, dans l'Oise, que cette petite fille de moins de 2 ans, donc, eh bien, elle ne tenait tout simplement plus debout. Ça s'est passé à la mi-mars. Paniquée, ses parents l'ont immédiatement conduite à l'hôpital. Et c'est alors Maxime Clier-Ruzat que les médecins ont découvert un inquiétant taux d'alcool dans le sang du bébé.
Oui, car en arrivant aux urgences, la famille s'imagine le pire, mais rapidement, les résultats des prises de sang tombent. La fillette de 21 mois a un taux d'alcool de 2,14 g dans le sang, l'équivalent de 8 verres de vin pour un adulte. Passé les questions aux parents, les médecins envisagent le syndrome d'autobrasseur, un phénomène rare qui transforme les glucides en éthanol, provoquant un état d'ébriété chez les personnes souffrantes. Finalement, pas de syndrome selon les médecins, leur bébé a simplement ingurgité de l'alcool. Quelques jours plus tard, les parents vont déposer plainte à la gendarmerie et sont depuis sans nouvelles de l'enquête. La crèche, fermée après l'hospitalisation de la fillette, devrait rouvrir dans le courant du mois de juin. Une situation qui ulcère les parents, toujours sans réponse de ce qui a pu arriver à leur fille. Cette dernière a depuis quitté l'hôpital et s'en sortira sans séquelles.
Les précisions de Maxime Clieruza pour RMC. Un pédocriminel pris en flagrant délit de proposition sexuelle en direct sur Internet. Ce sexagénaire de 66 ans, ancien professeur de sport, est actuellement en garde à vue. Une enquête a été ouverte après qu'un influenceur l'a piégé, se faisant passer pour une enfant de 14 ans à l'aide de l'intelligence artificielle. Donald Trump a été reçu ce matin avec les honneurs en Chine. Le président américain a rencontré son homologue, ne tarissant pas d'éloges sur Xi Jinping. C'est un honneur d'être à vos côtés, a-t-il déclaré, sur fond de négociations commerciales et de tentatives d'accord de paix avec l'Iran. Le chausseur français Minelli met la clé sous la porte. En redressement judiciaire depuis déjà le mois de mars, l'enseigne va définitivement fermer tous ses magasins à la fin du mois, mettant 86 employés au chômage, Cassandre Brault.
Plus de 13 ans que cette responsable de boutique travaille chez Minelli. Alors, la fermeture de l'entreprise, c'est un déchirement pour elle.
C'est pas simplement un emploi qu'on perd, c'est vraiment, entre guillemets, un certain bébé, une certaine identité à travers Minelli.
La salariée dénonce le rôle de la nouvelle direction.
La frustration, c'est que notre PDG n'a pas vu l'or qu'il avait dans les mains dans cette entreprise, en fait. Il n'a pas investi au bon moment, au bon endroit, au niveau de notre nouvelle collection. On se battait tous les jours quand on levait la grille, en fait, pour que le chiffre il augmente, pour faire vivre notre société.
Elle a aussi une pensée émue pour ses clientes, dont certaines qu'elle connaissait personnellement.
On voit beaucoup de tristesse par rapport à nous, parce que c'était le commerce un petit peu à l'ancienne, donc on connaissait plus ou moins tout le monde.
Dans cette boutique parisienne, les clientes sont venues acheter une dernière paire de chaussures.
C'est une marque que j'ai toujours connue, c'est une qualité correcte, pas très chère.
On est même très triste parce que c'était une bonne marque. Ça fait au moins 20 ans, je pense, qu'on va chez Minelli régulièrement.
On y est allé en famille pour chaque année avoir une bonne paire de chaussures.
Certaines clientes, les plus fidèles, ont même écrit directement aux vendeuses des boutiques pour leur adresser tout leur soutien dans cette fermeture.
Nicolas Sarkozy pourrait bien retourner en prison. En appel, hier, le parquet général a requis 7 ans d'emprisonnement à l'encontre de l'ex-président dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Nicolas Sarkozy, lui, continue de nier les faits. La Cour rendra sa décision le 30 novembre prochain. Le Paris Saint-Germain, champion de France de football pour la 14e fois, c'est la 5e même d'affilée. Les Parisiens se sont imposés 2-0 sur la pelouse de leur dauphin Lens hier soir. Mais Antoine Salva, eh bien, on ne sait toujours pas où ils vont le fêter, ce titre.
Oui, et pourtant la Ligue de football professionnel a bien demandé au Paris FC d'organiser la remise du trophée dimanche soir à l'issue du derby PFC-PSG, dernier match de la saison, fin de non-recevoir du promu qui a déjà prévu des festivités à Jean-Bouin pour rendre hommage à de nombreux joueurs sur le départ cet été. À la question où va donc avoir lieu la remise du trophée célébrant le 14e titre de champion, eh bien la réponse est loin d'être évidente et ressemble à un véritable casse-tête. Une certitude, ce ne sera pas au Parc des Princes, le PSG ayant vu la préfecture de police refuser pour des raisons de sécurité et l'idée d'une cérémonie organisée après ce derby parisien dans son antre à quelques dizaines de mètres le soir même. Certaines sources évoquent une célébration à l'hôtel de ville quelques jours après. Elle serait donc à l'étude, affaire à suivre.
Merci beaucoup Antoine Salva.
Et puis le quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 20h15.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favori c'est le 10 Freya et leur outsider l'As Omnicron.
Merci beaucoup Rachel, c'était le journal de 7h30, il est 7h38, on va accueillir Ali dans la Loire au 32-16. Bonjour Ali.
Bonjour Mathieu.
Conducteur poids lourd ce matin. Ali, vous réagissez à ce sujet, ce pédocriminel traqué sur Internet, un TikToker s'est fait passer grâce à une intelligence artificielle pour une adolescente de 14 ans. Victor, d'ailleurs, on a eu pas mal de réactions ce matin sur ce débat aussi sur la traque des pédocriminels.
Et on a Christian qui nous dit, par exemple, pourquoi pas, si ça permet de mettre ces gens hors d'état de nuire. Évidemment, nous dit-il, il y a la présomption d'innocence, mais ça peut peut-être permettre de retenir certains de passer à l'acte. Et on a aussi Eric qui nous envoie son message sur le WhatsApp pour nous dire que c'est une façon à privilégier. Il faut cependant l'encadrer par la loi.
Bah, c'est ce que disait l'avocat avec qui on était en ligne dans le parti pris à 7h10. Attention, il y a aussi le risque de mettre la puce à l'oreille de ce pédocriminel qui ensuite irait détruire les preuves qu'il a chez lui. Ali, ça vous a interpellé?
Ouais, ça m'a interpellé pour deux choses. La première, c'est les shérifs de TikTok, c'est bien, mais le problème, c'est ce qui va se passer, ils vont trouver un vice de procédure, et le problème, c'est qu'on le remettra en liberté. Et j'espère que me tromper, mais dans quelques années, on va réentendre que ce même personnage a sévi encore une fois et qu'il était sous le coup de la prison déjà.
Bah, il avait déjà été poursuivi une première fois, Ali, hein, si je puis me permettre, et condamné pour détention et diffusion d'images pédopornographiques.
Mais le problème, on sait très bien que demain, il va passer à la barre. Il y a un avocat qui va trouver un vice de procédure et ce sera entériné. Et merci, au revoir. Mais moi, ce que je veux surtout alerter, là où j'ai un vrai, vrai problème, j'ai entendu tout à l'heure votre avocat sur votre antenne qui parlait de l'État. Mais la vraie échelle de tout ça, pour commencer, c'est les parents, c'est pas l'État, c'est pas les parents. Comment des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans ou même moins se retrouvent sur Internet à faire des lives TikTok? On est tombé sur la tête. Aujourd'hui, les parents sont tombés sur la tête.
Alors, juste Ali, qu'on comprenne bien, je pense que vous avez compris le sujet, mais je le dis pour ceux qui seraient en train de se réveiller, cette adolescente de 14 ans n'existe pas. Il n'y a pas une adolescente de 14 ans qui était en live sur TikTok, c'est ça que je veux dire. C'est un TikToker qui s'est fait passer pour elle grâce à une intelligence artificielle. Ali, je sais que vous avez compris le sujet, je le précise pour ceux qui nous rejoindraient.
Ouais, mais j'avais bien compris le sujet, mais en fait, ce que j'ai aussi compris, c'est que là, on avait affaire à de l'intelligence artificielle, mais vous comme moi, on a des enfants, Mathieu, on va aussi sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, c'était de l'intelligence artificielle, mais hier, c'était des vrais enfants.
Bien sûr.
C'est ça qui me pose réellement problème. On vient cibler toujours l'État. On dit que l'État, c'est la
nounou. D'ailleurs, ce pédocriminel, il croit s'adresser à une enfant, donc tout est plausible. L'État défaillant, disait notre avocat à 7h10 ce matin, il y a un vrai enjeu, qui pour protéger nos gamins? Parce qu'il y a cette actualité-là. Il y a aussi, ce babysitter soupçonné d'avoir violé plusieurs enfants qu'il gardait alors qu'il a déjà été condamné il y a 6 ans. Comme Ali, vous réagissez au 32-16 ce matin. Merci Ali, vous êtes les bienvenus sur RMC. Il y a un sujet qui protège nos enfants. On en parle avec vous si vous le souhaitez. 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le SMIC augmente de 2,4% au 1er juin. Bonne nouvelle, pas pour les patrons. Le gouvernement envisage en plus de geler les allègements de charges pour faire des économies et le MEDEF est vent debout. Bonjour Charles Nati.
Bonjour,
porte-parole,
merci de m'accueillir
MEDEF
sur l'antenne.
Mais vous êtes le bienvenu, bien sûr, surtout que vous allez réagir à ces informations éco-sociales de la semaine. Vous promettez au MEDEF une réaction à hauteur des enjeux. Bon, laquelle, vous allez nous dire dans un instant, à tout de suite.
Jusqu'à 9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC, il est 8h moins le quart. La hausse du SMIC, plus 34 € net à compter du 1er juin. Bonne nouvelle pour les plus précaires, moins bonne pour le patronat. Et un problème comptable d'ailleurs pour l'État, vous allez comprendre. Bonjour Charles Nati.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole nationale du MEDEF, président du MEDEF Paris. Cette hausse du SMIC, c'est mécanique, automatique, c'est indexé sur l'inflation. Pour le ministre du Travail, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. C'est une bonne nouvelle pour les Français les plus précaires, Charles Nati?
Oui, c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui sont concernés. Le fait que les salaires augmentent, ça ne peut que aider, en particulier dans une situation, un environnement économique qui est le nôtre. Après, il faut regarder ce que sont les conséquences. De toute façon, le SMIC allait augmenter, hein, puisqu'il augmente chaque année. Là, le gouvernement anticipe un petit peu le timing. Et voilà.
Donc, alors justement, sur les conséquences, on va les explorer ensemble, Charles Nati, si vous le voulez bien. On a plusieurs questions, c'est un sujet qui est un peu technique comme ça, juste de dire que le SMIC augmente de 2,4%, ça a plein de conséquences et plein d'impacts. Une question notamment, je crois, d'Emilie, c'est ça, Victor?
Oui, c'est ça, Emilie, qui résume un petit peu une pensée générale dans les messages sur le WhatsApp RMC. Le SMIC qui augmente, très bien, mais quid des salaires qui sont juste un petit peu au-dessus de ce salaire minimum?
Alors ceux qui sont juste au-dessus deviennent mécaniquement SMICards pour certains. Vous allez, eux, les augmenter aussi?
Oui, alors ça, c'est le débat qui revient à chaque fois, c'est-à-dire quels sont les effets, comment les grilles sont réévaluées dans les entreprises. En réalité, ça dépend du dialogue social et de la manière dont les entreprises sont gérées. Et puis, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est en face, est-ce que la richesse du pays, est-ce que le produit intérieur brut, est-ce qu'il y a de la croissance? Parce que à un moment donné, il y a une chose que tout le monde peut comprendre, c'est que pour payer les salaires, il faut qu'il y ait de la croissance, il faut qu'on crée de la richesse. Or aujourd'hui, les entreprises, elles sont comme tout le monde, Elles sont confrontées à la hausse des prix de l'énergie, à la hausse des prix en général, et donc elles sont dans la difficulté. Donc c'est cet ensemble qu'il faut
Mais vous ne niez pas, parce que vous craignez les conséquences évidemment, et c'est vrai que l'économie, les indicateurs de croissance ne sont pas positifs, mais Charles Znaty, vous ne niez pas entre l'inflation, les prix des carburants, ce que vous décrivez d'ailleurs pour les entreprises dont vous parlez, vous ne niez pas qu'il y a un problème de salaire en France.
Ah, alors, si vous voulez, aujourd'hui, les hausses de prix, les hausses du prix des carburants, c'est les entreprises qui en supportent la charge la plus importante. Et qu'est-ce qui se passe en réalité?
Les particuliers,
c'est que ça se répercute sur les prix. Et donc, finalement, tout ça est lié. Donc, on voit bien que ce qui compte et ce qui aiderait tout le monde, ce qui aiderait à augmenter les salaires, ce qui aiderait à faire en sorte que ça fonctionne mieux, c'est qu'on ait de la croissance en réalité, qu'on crée de la richesse, qu'on crée de la valeur. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit, ça tombe pas du ciel, en fait.
Voilà. Alors, cette revalorisation du SMIC, elle fait gonfler la note pour les comptes publics. De 1,5 à 2 milliards d'euros. Je m'explique. Mais rappelons qu'on cherchait déjà 6 milliards. Je vais le dire simplement. Les entreprises bénéficient d'allègements de charges sur les bas salaires. Proportionnels, ces allègements de charges au salaire, bien sûr. Qui dit hausse du SMIC, dit hausse de ces allègements. Or, on apprend aussi que le gouvernement, Charles Znaty, réfléchit à geler ces allègements totalement ou partiellement. Vous dites quoi? Double peine pour les patrons?
Ah bah oui, je vous rejoins complètement, double peine, parce que en réalité, pourquoi est-ce qu'il y a des allègements de charges sur les bas salaires en France? C'est parce que la France, par rapport aux autres pays de l'OCDE, est le pays où les entreprises supportent un coût du travail qui est le plus élevé au monde. Donc forcément, l'État qui se préoccupe de la compétitivité de nos entreprises introduit des mesures d'allègement de charges, notamment sur les bas salaires. Et ça permet aussi de fluidifier le marché de l'emploi.
Alors, donc, précisément,
puisqu'il y a cette distorsion de concurrence, l'État se retrouve devant...
Vient compenser le coût du travail par rapport à la concurrence internationale.
Après, l'État se dit, alors si on augmente le SMIC, il va falloir que ça va nous coûter plus cher, et donc il va falloir que peut-être on considère renier sur les allègements de charges.
Mais alors ces allègements eux-mêmes, écoutez juste ce que dit Julien sur le WhatsApp RMC, Charles Znaty, un de nos auditeurs justement, parce que ce sont ces allègements eux-mêmes qui sont remis en cause.
Oui, Julien qui verra une proposition plutôt radicale, en tout cas que vous allez trouver radicale, j'imagine. Il nous dit que ces allègements de charges, il faut tout simplement les supprimer et en fait, en toile de fond, laisser faire le marché. L'entreprise qui doit survivre parce qu'elle est rentable, elle survivra.
Alors, il y a ce que dit Julien et il y a ce que dit la Fondation Jean Jaurès en septembre dernier. Je me suis penché sur ce rapport cette nuit. La priorité pour la Fondation Jean Jaurès, c'était sortir le salariat de la smicardisation, que la moitié des salariés du privé aujourd'hui sont entre un SMIC et un SMIC et demi, et que ces allègements de charges, précisément, ils empêchent les patrons d'augmenter les salariés précaires.
Oui, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a paumé pas mal d'auditeurs en chemin avec ce type de raisonnement.
Non, je pense qu'ils comprennent très bien que vous êtes aidé pour les bas salaires et pas pour les plus gros.
Non, ce qu'il faut voir, c'est que si cette histoire d'allègement de charges compense une inégalité, un problème de compétitivité du coût du travail en France. Donc, revenir dessus, le renier, serait de toute façon, au bout du compte, préjudiciable à l'emploi, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont très très dépendantes de ces allègements de charges et qui, aujourd'hui, renonceraient à créer des emplois ou renonceraient à embaucher si on vient à leur renier ces allègements de charges. Donc nous, le MEDEF et les autres organisations syndicales patronales, on dit à Bercy la semaine dernière, attendez, n'allez pas là-dedans parce que franchement, ça va encore rendre la situation encore plus compliquée.
C'est la menace du chômage. Ça, pour le coup, on a vu cette semaine aussi, qui repartait à la hausse à 8,1 au plus haut depuis 5 ans. Inquiétude, évidemment, vous parliez de la croissance, il y a l'emploi, les salaires, parce que ça reste que 34 euros net pour les salariés au SMIC. On continue de parler de ces sujets avec nos auditeurs aussi au 32-16. Merci mille fois, Charles Znaty, porte-parole du MEDEF, porte-parole national, président du MEDEF Paris, d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Il est 7h51. Et dans un instant, la voix de gauche d'RMC aujourd'hui, c'est avec vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle ce matin?
Ce matin, on parle de arrêter de faire flipper la planète avec l'antivirus ou un nouveau virus.
Papa.
Et pour ça, il va falloir protéger la biodiversité sérieusement.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Victor, ce matin, on part à la chasse au trésor.
Ah, il est difficile. Il est difficile ce blind test. Je vous donne la réponse. C'est la musique d'un jeu vidéo, Assassin's Creed Black Flag, où vous incarnez un assassin dans l'univers des pirates.
Il y a des Caraïbes,
on l'a. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, un remake d'Assassin's Creed Black Flag va sortir bientôt. Et pour cette occasion, le studio Ubisoft va lancer une véritable chasse au trésor avec un vrai trésor enterré quelque part dans les Caraïbes avec un butin d'une valeur de $500,000 tout simplement parce qu'il y a un vrai crâne de cristal à l'intérieur avec de vraies pièces d'or. Comment ça marche? Ben, comme souvent, faut payer minimum 35€ jusqu'à 200€ pour avoir accès à 15 énigmes. Elles sont toutes réalisables à distance, mais l'enquête est prévue pour durer de 2 à 5 ans. Ça fait long.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
La voix de gauche d'RMC, c'est vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
Alors, on parle de l'antavirus ce matin à nouveau. Aucun symptôme pour les 26 cas contacts français de la néerlandaise qui, elle, est décédée. Le monde entier retient son souffle. Et pour vous, ça irait mieux si on prenait soin de notre biodiversité?
Oui, parce qu'on aime un peu croire qu'une pandémie, c'est une sorte de catastrophe qui est tombée du ciel. Un virus mystérieux qui surgit tout d'un coup dans un monde tranquille. D'ailleurs, on rigole un peu jaune quand même, avec les rats à longue queue, avant avec les pandémies. Mais en fait, ça n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que nous créons une partie des conditions de ces pandémies. Parce que le plus grand risque de pandémie, c'est-à-dire d'une maladie qui touche les humains sur toute la planète, c'est une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui passe de l'animal à l'humain. Si on part depuis le début du XXe siècle, il y a eu la grippe de 1918 qu'on appelait la grippe espagnole qui a tué une personne sur 100 en France quand même, il faut se le dire, et que des jeunes, entre 20 et 40 ans. Et que la circulation a été massivement liée à la guerre. Mais ensuite, il y a eu le VIH, le sida, Ebola, le SARS et évidemment le Covid. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Des écosystèmes bouleversés, des forêts détruites, des zones humides asséchées, du coup, des contacts accrus entre humains et animaux, plus des circulations mondialisées. En fait, les pandémies, ça raconte notre manière d'habiter le monde.
Mais alors, concrètement, quel est le rapport entre une forêt détruite et un virus?
Eh bien, il est très direct, en fait. On a le sentiment que c'est très éloigné, mais pas du tout. Quand on détruit une forêt, les animaux sauvages, ils disparaissent pas. Ils se déplacent. Les chauves-souris, grand réservoir à virus, les rongeurs, les primates se rapprochent des villages, des élevages, donc des animaux domestiques, des cultures, et les virus, bah, ils voyagent avec eux. Et les scientifiques ont très bien documenté ce phénomène dans plusieurs émergences virales récentes. Donc il y avait des virus qui circulaient discrètement dans la faune sauvage et tout d'un coup, ils trouvent des opportunités pour franchir la barrière des espèces. Et alors, si c'était que les animaux sauvages, mais on rajoute une couche. La deuxième couche, c'est les élevages industriels. Là, vous avez des milliers d'animaux qui sont génétiquement très proches, qui sont très concentrés et qui sont une sorte de réservoir à mutations virales. C'est des fabriques, on appelle ça scientifiquement des fabriques à variants. Et c'est pas un hasard si les experts surveillent de manière obsessionnelle les grippes aviaires, c'est les plus dangereuses en fait, parce que ça fait les drames qu'on connaît, dont on a parlé ici, les abattages massifs. Mais il faut le dire, les scientifiques sont quand même, quand on lit la littérature scientifique, paniqués à l'idée d'une pandémie où le Covid, ce serait une plaisanterie, c'est-à-dire un virus très contagieux et très mortel.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh ben d'abord, il faut parler d'un concept qui a un nom anglais. Donc si vous en entendez parler, je vais vous le dire, c'est One Health. Si on traduit en français, ce serait une seule santé, qui repose sur une idée
one
qui
health,
est
pas One what Health, health. Des machines à café.
Non, One Health, une seule santé. Et c'est un concept très simple en fait. Ça dit que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, de l'environnement, sont indissociables. Qu'on peut pas penser la médecine d'un côté et l'agriculture et l'environnement à part. Ça marche pas parce qu'en réalité tout communique et qu'une forêt détruite, ça peut devenir un problème hospitalier quelques années plus tard. Et de la même manière, l'usage massif d'antibiotiques dans des élevages, ça peut produire des bactéries résistantes qui arrivent ensuite dans nos services de réanimation et qui peuvent décimer l'espèce humaine. Et pourtant, c'est ça qui est dingue, c'est que nos politiques publiques restent organisées de manière séparée. Et je le dis, on pense parfois que la biodiversité, c'est un sujet décoratif, alors qu'en fait, c'est aussi un sujet de santé publique. On entend parler souvent de backlash écolo, que les écolos fatiguent. Alors déjà, il faut le dire, et je le dis du haut de mon grand âge, c'était vrai ce que disaient les scientifiques sur le réchauffement climatique. C'est vrai aussi sur les conséquence de la perte de biodiversité. On dit souvent que l'homme n'a pas de prédateur. En fait, on peut avoir un prédateur très très dangereux qui s'appelle un moustique avec un virus létal pour l'être humain.
C'est quoi les solutions, Cécile? Parce que les scientifiques, vous le dites, disent qu'il faut agir maintenant. Il y a des solutions?
Eh ben, il faut agir maintenant parce que le risque augmente. Et donc, c'est très simple en fait. Préserver les écosystèmes, c'est moins cher qu'arrêter l'économie mondiale. Surveiller les virus dans les élevages, c'est moins cher qu'un confinement généralisé et c'est plus vivable. Donc, investir dans les systèmes de santé, c'est moins cher que gérer une catastrophe sanitaire mondiale. Donc, One Health, c'est une façon différente de penser aussi l'écologie, de penser ça comme une politique de sécurité collective. La biodiversité, c'est pas un luxe, c'est pas un sujet marginal, c'est une garantie sanitaire. Parce que, du coup, la question, ce sera pas comment réagir à la prochaine pandémie, mais comment arrêter de fabriquer les conditions de la suivante. C'est ça le sujet. Et honnêtement, dites-vous bien que ceux qui défendent les zones humides, bah, ils défendent finalement des libellules qui vont manger des moustiques et que tout ça, ça nous permet de rester en bonne santé et d'éviter de se retrouver de nouveau confinés.
Merci beaucoup Cécile Duflo, la voix de gauche ce matin, à partager en podcast si vous le souhaitez sur l'application RMC, à suivre la météo, le journal de 8h et Emmanuel Le Chypre pour l'économie. Vous apprendrez que la taxe sur les petits colis qui devait rapporter gros rapporte pas tant que ça. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.